Alors pour commencer, donc je vous adresse au nom
Allô?
oral, donc accompagné de Jean-Marc Gendre, donc directeur général délégué et responsable de l'activité médicale, de Madame Aude Nomblon-Gourand, secrétaire générale, et Monsieur Pierre Valalta, responsable donc stratégique donc finance. Alors donc l'exercice 2021 donc est un bel exercice pour le groupe Lumibird, puisque nous atteignons nos objectifs de croissance et établissons un nouveau record donc, sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe, donc pour atteindre donc un total de 162,5 millions d'euros donc pour l'année 2022. Ceci représente donc une croissance de 28%. Donc, par rapport à l'année précédente. Et c'est aussi en fait un chiffre d'affaires record pour le dernier trimestre, donc le trimestre donc Q4, donc avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, donc qui montre encore donc la dynamique très positive donc tout au long de l'année, particulièrement en fait donc sur cette fin d'année donc qui a été quand même donc somme toute compliquée. Compte tenu en fait donc de la situation sanitaire et des difficultés donc d'approvisionnement. Nous avons également donc un backlog donc en fin d'année donc extrêmement important donc ce qui nous met en bonne position en fait donc pour l'année 2022. Alors au-delà des chiffres, au-delà de cette belle performance donc sur l'activité. L'année 2022 est également donc la poursuite de la consolidation enfin de la structuration en fait du groupe. Donc nous avions présenté donc en juin donc un Comex étendu bon qui a pris ses marques en fait donc sur le deuxième semestre. Bon beaucoup de travail donc a été fait sur le deuxième semestre donc pour continuer donc à mettre en place les process donc et à travailler en fait donc sur un groupe donc vraiment consolidé donc sur des activités sur l'ensemble donc de nos activités médicales et photoniques et également donc de nous projeter en fait donc sur de nouvelles activités que nous pourrons ainsi intégrer de façon extrêmement efficace donc et rapide. Je vais laisser donc maintenant donc Jean-Marc donc vous donner le détail en fait par division donc sur l'activité et nous poursuivrons ensuite donc sur les questions.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous, merci Marc, meilleurs vœux également. Donc, pour reprendre un peu les mots de Marc, donc 162,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, à comparer à 126,7 millions, 28% de croissance, à taux de change constant, on a 1% de croissance supplémentaire, donc on serait à 29%. Nous avons une partie de nos activités facturées en dollars australiens, en yens, en dollars américains, donc tout ça a joué. Et puis, si on reconstitue un peu le chiffre d'affaires avec le pro forma, on est à 147,7 millions pour 2020, ce qui constitue au global 10% de croissance par rapport à l'année 2020 à périmètre pro forma. À l'intérieur de ça, on en a souvent parlé de nos deux divisions, alors des dynamiques similaires pour la division photonique. 68,8 millions l'année dernière, 76,3 millions cette année. Donc là, pas d'impact du pro forma, on est exactement dans le même périmètre, 11% de croissance. Et ce qui est intéressant de regarder, outre la très très belle performance du quatrième trimestre, d'ailleurs des deux divisions, hein, pour arriver à ce chiffre d'affaires record, on retrouve à l'intérieur de ça, sur les trois segments qui constituent notre division photonique, des dynamiques qui sont peut-être un petit peu différentes. Alors d'abord, l'activité industrielle et scientifique, elle est toujours aussi dynamique. Elle est portée principalement par nos activités d'OIM chez les écrans, dans les écrans plats et pour les activités d'OIM médicales. Le chiffre annuel de cette division est à 33,9 millions, avec une hausse de près de 35%. Donc des activités très dynamiques qu'on retrouve quasiment sur toutes les zones du globe. C'est quelque chose, c'est un chiffre d'affaires performant aussi bien dans les activités asiatiques qu'américaines ou qu'européennes. La deuxième grande composante de ce chiffre d'affaires, c'est notre division spatiale et défense, ou défense et spatiale. Donc là, le chiffre d'affaires sur l'année est en retrait, léger retrait de 7%. Mais je vous rappelle qu'une des grandes composantes de ce chiffre d'affaires-là, ce sont nos contrats, et notamment le contrat Mégajoule. L'année 2000, on avait programmé, nous avons programmé cette baisse sur ce contrat-là. Elle est en partie compensée par d'autres contrats. Ce n'est pas encore complètement à pleine vitesse, tout ça, mais ça réalise quand même un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros avec des perspectives très encourageantes pour l'avenir. Et puis le dernier segment de cette division-là, ce sont nos activités LIDAR. Alors, quand on en avait parlé lors de la dernière publication, on avait mentionné que la partie qui concerne les systèmes LIDAR, donc tous les produits qui sont utilisés dans des applications de mesure de vent, par exemple, pour des systèmes complets, avait eu un début d'année compliqué. Il y a eu un fort rebond au quatrième trimestre, on le voit, un 17% de croissance sur le quatrième trimestre. Donc les commandes qui avaient été engrangées ont pu être livrées, et partiellement ou globalement, et ce qui montre que le retard sur cette partie-là a été compensé. Et dans le même temps, le reste de nos gros clients habituels dans ce secteur-là ont continué de commander, ce qui fait qu'au final, même si on a dû repousser beaucoup de choses sur l'année 2022, Marc l'a mentionné, le backlog est important. On a une année qui est en ligne avec nos objectifs et derrière un potentiel qui est toujours aussi présent et on pourra en parler un petit peu plus tard au moment des questions. Donc là maintenant, on va se rapprocher de la deuxième division qui est la division médicale. Donc je rappelle, hein, 86,1 millions d'euros pour cette division. Si on le compare bien sûr aux 78,8 millions, on est aux environs 10% de croissance. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une année où on commence vraiment à exploiter toutes les synergies commerciales qui avaient été mises en œuvre lors de l'acquisition d'Helex. Et sur deux gros marchés notamment, que ce soit le marché américain ou le marché japonais, les deux filiales qui étaient principalement des filiales Helex au départ, hein, qui sont maintenant des filiales de Lumibird Medical, ont vu croître de façon importante la pénétration des produits Cantel Médical. Et ça, c'est un point important. Et puis, dans le même temps, on retrouve aussi, au niveau des distributeurs ex-Cantel Médical, et bien une performance plus importante des produits Helex. Alors, le backlog est important pour le médical aussi. Donc, pareil, une bonne année, une belle année. Je pense qu'on aurait pu performer encore plus, mais comme Marc l'a précisé, sur la fin d'année, tout ce qui est approvisionnement a été un peu plus compliqué qu'espéré. Par contre, c'est en train de se remettre en place et les perspectives aussi sont intéressantes. Donc, ça veut dire que sur l'année 2022, on démarre l'année avec un carnet de commandes qui est bien rempli dans les deux divisions et pour le médical en particulier, où aujourd'hui, on lance trois nouveaux produits et toutes les autorisations nécessaires, que ce soit la marque CE, que ce soit pour nos échographes, la FDA, sont en place pour pouvoir réaliser nos objectifs de 2022. Je rappelle simplement que, conformément à ce que nous avions précisé en début d'année 2021, que l'objectif, hein, on le réaffirme, c'est le doublement de notre chiffre d'affaires publié entre 2020 et 2023, avec une marge de BE en croissance dans une fourchette de 20 à 25%. Donc voilà pour un résumé de notre performance. Alors, vous avez tous lu, je pense, le communiqué de presse. Donc, ce qui est peut-être plus important maintenant, c'est de pouvoir répondre à vos questions émanant de ce communiqué de presse et de nos dernières nouvelles, là. À part Marc, si peut-être tu veux un autre point, préciser notre point ou...
Non, non, mais écoutez, je pense qu'on peut passer, aux questions.
Nous allons en ce moment commencer la session questions et réponses. Afin de pouvoir poser une question, veuillez composer étoile suivie par 1 sur votre appareil téléphonique. Si vous changez d'avis et vous voulez sortir votre nom de la liste des questions, veuillez appuyer étoile et 2. Toute personne voulant poser une question peut poser étoile et 1 sur votre téléphone. La première question, c'est de Laurent Gélébart de BNP Exane. À vous la parole.
Oui, bonsoir. J'avais trois questions en fait. Et bonne année, monsieur. La première question concerne le backlog. Donc, vous mentionnez s'il est bien orienté pour 2022, est-ce que vous pouvez nous quantifier un peu les choses, me donner un niveau de croissance par exemple? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur la marge d'EBE sur 2021. Donc, il faut bien comprendre que la marge d'EBE en 2021 sera à minima à 20%. Et la troisième question, ça concerne le contrat remporté par Luminar auprès de Mercedes-Benz sur des systèmes LIDAR pour véhicules autonomes. Est-ce que c'est une société avec laquelle vous travaillez ou pas? Et est-ce qu'il y a des choses qui avancent sur cette thématique-là? Et enfin, dernière question, et j'en aurais fini, est-ce que vous pouvez nous donner un point d'avancement sur la situation de Silas? Merci.
Alors, vous avez posé quatre questions qui vont, je pense, intéresser tout le monde. Donc, Marc, je vais te laisser peut-être répondre sur la question concernant Luminar et concernant Silas, dans un premier temps.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, je te laisse commenter en fait sur le backlog. Donc, prendre la main sur le BE si tu veux. Donc, oui.
D'accord. Alors, sur le backlog, on ne communique pas sur les objectifs de l'année prochaine, mais il est clair qu'aujourd'hui, nous avons un carnet de commandes important qui représente près de 40% du chiffre d'affaires qu'on doit réaliser l'année prochaine. Mais dans le médical, pour la partie médicale, c'est compliqué parce qu'on départ l'année, on démarre l'année finalement avec un backlog qu'on doit construire. Donc on pousse celui de 2021 pour le médical. Donc ça, c'est une partie. Et puis sur la partie photonique, les commandes sont rentrées. Encore une fois, on a un volume de commandes qui représente près de 40% de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc aujourd'hui, l'objectif de poursuite d'une croissance importante pour le groupe sur l'année est toujours, qui doit nous conduire à ce qu'on avait annoncé, toujours en tous les cas dans le pipe. On n'a pas de commandes. Enfin, c'est difficile de donner plus de détails sur le backlog, mais quand on dit qu'il est présent, en effet, il est bien présent et bien important. Donc ça, c'est pour le backlog. Sur le BE, oui. Peut-être, Marc?
Oui, alors sur le BE, donc sans donner de chiffres à ce stade, donc simplement la tendance c'est que toujours évidemment avec des marges brutes donc qui sont au-delà de 60%, donc il est clair que quand la top line, quand le revenu est donc est bon en général, donc il n'y a pas de raison que la partie en fait donc EBE en fait donc soit en souffrance. Donc donc on peut effectivement s'attendre à ce que il y ait de bonnes nouvelles en fait donc sur le BE en fait donc sur 2021. Voilà. Donc alors sur Luminar, Luminar est une société en fait donc américaine donc spécialisée en fait donc dans les lidars. Donc ils ont effectivement annoncé en fait donc un partenariat avec Mercedes. Alors on ne travaille pas avec eux donc de façon importante donc aujourd'hui. Le point en fait donc est que Luminar en fait donc la bonne nouvelle c'est que ça reste une bonne nouvelle donc pour Lumibird donc néanmoins ce partenariat donc dans la mesure où Luminar en fait donc a focalisé en fait donc ces technologies donc de lidar sur les lasers à fibre donc avec un 50 nanomètres sont exactement donc la technologie que nous développons aujourd'hui. Donc ils n'ont pas en fait donc travaillé beaucoup aujourd'hui avec Lumibird, mais le point important c'est que donc ça souligne en fait donc l'intérêt en fait donc de cette techno 1550 nanomètres donc qui est en fait assez sécurité oculaire et qui a en fait donc remplacé progressivement en fait donc les semi-conducteurs donc à 905 nanomètres donc et c'est encore une fois c'est une évolution qu'on nous avions en fait donc noté, on vous l'avait expliqué donc il y a quelques mois, mais ça n'a fait que se renforcer en fait cette tendance. Donc Lumibird donc profitera bien évidemment en fait de ce marché et nous sommes en fait donc en 2021 donc nous avons été très actifs en fait donc sur la qualification de notre nouvelle plateforme donc low cost donc laser à fibre donc qu'un client comme Luminar n'a pas encore testé mais nous travaillons avec d'autres clients donc sur cette nouvelle plateforme de laser low cost donc qui est vraiment extrêmement innovante et qui permet en fait donc non seulement en fait de réduire drastiquement les coûts, mais d'améliorer les performances du laser encore davantage. Donc de belles perspectives. Hein. Donc nous restons très actifs donc pour résumer sur ce segment de marché et donc là, encore une fois les jokers sont à venir donc sur ces marchés-là donc pour l'Humibird. Alors sur Silas, situation compliquée donc c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin vous avez sans doute suivi donc les toutes les péripéties dans la presse. Donc bon, nous sommes actionnaires donc pour mémoire donc à minoritaire à hauteur de 37% aujourd'hui en fait donc de Silas et donc nous sommes portés acquéreurs donc des 63% restants donc qui sont détenus donc par le groupe Ariane. Ceci étant donc bon, le consortium concurrent donc mené par Safran MBDA donc s'est également positionné sur ces 63%. Il est entré en négociation exclusive donc avec Ariane Group donc pour l'acquisition de ces 63%. Bon, pour l'instant donc j'irai donc bon, nous sommes toujours actifs donc sur ce sujet et nous maintenant en fait donc si on peut dire une pression donc pour continuer en fait donc à faire valoir en fait donc l'intérêt du projet Lumibird donc sur Silas. Bon, et il ne faut certes pas aujourd'hui que les choses soient perdues. Bon, ça reste encore un process donc compliqué donc qui prend du temps parce qu'il faut des autorisations donc du ministère de la Défense donc du ministère de l'Économie et ensuite avec les échéances électorales. Donc à ce moment il n'y aura pas de décision prise avant vraisemblablement donc à quelques mois encore, sans pas avant les élections. Donc, il peut encore se passer pas mal de choses. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, pour résumer, donc, enfin, nous restons toujours actifs donc, sur le sujet et si ça ne devait pas se faire, donc, bon, nous verrions donc, avec Safran MBDA donc, la suite des opérations. Mais enfin, voilà, donc, nous restons optimistes donc, en fait, sur ce sujet-là.
Merci.
La prochaine question, c'est de Stéphane Surmar sur LBO France. À vous la parole, monsieur. Monsieur Stéphane, votre ligne est ouverte. Peut-être
Oui,
que vous
bonsoir.
m'entendez.
Bonsoir, vous m'entendez ou pas?
Oui, on vous
Oui,
entend. On vous entend.
Ah oui, voilà. Oui, mais je disais bonsoir et bonne année à tous. Écoutez, bah, j'avais la question sur Silas que Laurent a posée. J'avais pour revenir juste revenir sur le backlog. Je suis pas certain quand vous parlez. Ça veut dire quoi? Vous avez parlé de glissement de commandes de 2021 dans le médical sur 2022.
Alors,
Et en fait, plus fondamentalement, c'est peut-être lié. Je voulais comprendre en fait les problèmes de supply. Est-ce que c'est des reports de ventes ou c'est des ventes perdues parce qu'elles ont été faites par d'autres? Les marchés ont été perdus parce que d'autres, eux, ont pu livrer. Voilà.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas perdu de clients, on n'a pas perdu de commandes. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand je vous dis le report sur 2022 du médical, c'est que généralement, le mois de décembre est un mois dans le médical. Alors, on a fait déjà un très gros mois, hein, puisque la performance est intéressante. Mais c'est un mois sur décembre où il y a beaucoup de pays où la défiscalisation est possible. Donc, on reçoit des commandes en avance. Donc, on a privilégié ces commandes-là sur les pays défiscalisés. Et ce qui fait qu'à côté, on a beaucoup de nos distributeurs qui nous avaient commandé des produits aussi. Et en fait, on n'a pas pu les livrer parce que, soit pour des capacités de production, soit pour des problèmes d'appro dans certains domaines. Et en fait, c'est pour ça que les commandes ont glissé sur les premiers mois de l'année. Donc, en fait, on a poussé ces commandes-là, mais ce ne sont absolument pas des commandes perdues. Encore une fois, il y a, que ce soit pour la photonique d'ailleurs, comme pour le médical, aucune commande qui a été perdue de cette situation-là. D'une façon générale, alors encore une fois, je parle principalement pour le médical, parce que vous savez que sur le médical, on travaille avec des produits qu'on dit sur étagère, hein, c'est-à-dire que les produits sont fabriqués, sont tous les mêmes, et sont fabriqués pour pouvoir servir les clients partout dans le monde. Et généralement, on arrive à se positionner, quand on surperforme, à pouvoir livrer, et ben là, on pouvait surperformer, on n'a pas pu parce qu'on est en tension. Le Covid a joué, hein, dans certaines, le Covid a pu jouer, et encore une fois, certains manquent. On avait bien placé nos appros pour faire ce qu'on avait prévu de faire. Hélas, on n'a pas pu faire un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que ça a glissé et que le carnet de commandes de l'année 2022 sur le mois de janvier est plus important qu'il aurait dû être parce que cette raison-là, pour cette raison-là. Donc, pas de commandes perdues pour aucune des deux divisions et pour le médical, un glissement principalement à cause de ça.
Et j'avais deux petites questions toujours sur le médical. De l'autre côté, sur le niveau des stocks, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux-ci sont tombés assez bas, si j'ai bien compris, implicitement. Et j'avais une deuxième question. Est-ce qu'il y a des sujets de paiement? Enfin, est-ce qu'il y a des clients qui ont du mal à vous payer, genre?
Alors, on n'a aucun.
Parce qu'il y a eu beaucoup de reports l'environnement Covid a fait que financièrement, certaines cliniques ou médecins ou je sais pas, n'ont pas eu les entrées, donc vous avez les commandes, mais pas les délais qui vont avec. Enfin, vous n'avez pas forcément été payé.
Alors, nous, on est dans un environnement relativement privilégié avec l'ophtalmologie, et notamment tout ce qui est ophtalmologie pour nos principaux marchés, que sont la France, que sont les États-Unis, que sont le Japon, où là, nous travaillons en direct avec les clients. Et là, on a des DSO qui sont satisfaisants, et en tout cas, il n'y a pas de dérive de ces DSO-là. Ensuite, après, est-ce qu'on a aujourd'hui des créances douteuses qui émanent de la situation? La réponse est non. Pour deux raisons. D'abord, parce que beaucoup des pays qui sont à risque, on demande des prépaiements. Et c'est valable la même chose pour la division photonique. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, au pire, on livre pas, mais on livre pas. Et encore une fois, c'est pas arrivé sur toute la division médicale aujourd'hui. On n'a pas ce cas de figure-là. Donc, je vais pas en dire beaucoup plus. Donc, on n'a aucun problème de ce domaine-là. On n'a pas de créances douteuses. On n'a pas ressenti en tous les cas vis-à-vis des clients directs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes directs, je rappelle, dans 7 pays dans le monde, hein, les plus gros pays. On n'a ressenti aucun problème de règlement. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des médecins qui commandent payent avec leur carte Amex.
Et si je peux me permettre, une dernière question. Il y a le sujet du supply, avoir les produits, mais il y a aussi la question du prix. Comment ça se passe, le coût du supply?
On a fait deux choses. On a d'abord augmenté nos prix, nous, d'accord? Comme ça, on les a augmentés de façon significative pour pouvoir couvrir l'augmentation des prix sur la supply. Donc aujourd'hui, pour la division photonique, on avait anticipé. Généralement, on a des contrats avec nos fournisseurs qui font qu'ils doivent continuer de nous fournir au prix qu'on avait convenu. On a quelques pièces qui ont bien sûr augmenté de façon significative, mais qui sont couvertes par l'augmentation de prix d'un côté et qui n'étaient pas des éléments significatifs. Donc globalement aujourd'hui, il est clair qu'il y a une pression de la totalité des acteurs pour augmenter les prix, que ce soit le prix du transport ou que ce soit le prix là. Donc nous, on a, encore une fois, augmenté nos prix quand c'était nécessaire. Et les contrats qui ont été placés, la division Marc tout à l'heure a parlé de la structuration du groupe. On a donc structuré une division achat au niveau du groupe qui nous permet de réagir le plus rapidement possible, aujourd'hui on sait que les composants c'est de plus en plus compliqué à trouver, sauf que sur la côte ouest des États-Unis, il y a encore paradoxalement plus de composants disponibles que sur le reste du monde, nos acheteurs de notre division américaine qui rentre maintenant dans le groupe achat, dans la division achat du groupe, nous ont permis d'aller chercher des brokers qu'on n'avait pas auparavant. Donc la structuration du groupe nous a permis d'accélérer et d'anticiper. Maintenant, je vous cache pas que tous les jours on a des questions tous les jours et on les résout régulièrement. Et l'augmentation des prix pour l'instant n'est pas encore impactante pour nous. Peut-être qu'elle le sera à un moment ou à un autre, mais pas pour l'instant.
Et juste, vous pouvez la quantifier. Enfin, je sais pas, quand je vois qu'il y a 3% de croissance pro forma au quatrième trimestre, on n'a pas l'impression forcément que ça intègre beaucoup de hausse de prix.
Mais là, la hausse de prix, c'est pour 2022.
Ah, d'accord, ok, donc on l'a pas, donc d'accord, sur le catalogue.
D'accord, dans le médical, on joue principalement sur les hausses de prix 2022, donc là, on a augmenté nos prix pour 2022.
Et de combien? Vous pouvez nous dire à peu près
Oui, je peux vous le dire. On a augmenté de 5% nos prix sur toutes les prix, tous les tarifs.
Médical et photonique. Hein.
Médical. Je parle du médical. Sur la photonique, c'est un peu différent. Là, les cotations qui sont faites pour les nouveaux clients intègrent et les nouveaux devis intègrent tous ces éléments-là. Et il y a des discussions qui sont faites régulièrement avec nos principaux clients pour pouvoir les informer du fait de l'augmentation des matières premières ou l'augmentation des composants. Donc, c'est quelque chose qui est discuté régulièrement pour pouvoir suivre cette tendance, hélas, qui nous concerne tous.
Et je me permets une dernière petite question, désolé. Mais si on partait d'un doublement du chiffre d'affaires entre 2020 et 2023, c'était un objectif qui avait été donné dans un monde où il n'y avait pas d'inflation, est-ce que ça veut dire que si on reprend un peu la pente que l'on pouvait tirer sur cette année, disons autour, je sais pas, de 8 ou 10% sur 2022 de croissance organique pour le groupe, est-ce qu'il faut rajouter ne serait-ce qu'au moins les 5% de prix au moins sur le médical?
Alors, je vais laisser Pierre répondre à ça, qui peut-être aura une réponse plus globale. Après, je ne peux pas vous répondre comme ça, si en disant j'aimerais bien que ça soit aussi facile que ça, mathématiquement, mais je ne crois pas. Donc, je vais laisser Pierre répondre, peut-être, si tu as un élément complémentaire à donner, Pierre.
Oui, enfin, je pense que c'est. Enfin, pardon, Stéphane, mais la question est un peu rhétorique, en fait. De toute façon, dans nos. On a une augmentation annuelle de nos prix. Enfin, bien évidemment, nos lasers, que ce soit pour l'activité médicale ou pour l'activité photonique, en fait, augmentent tous les ans. Maintenant, effectivement, est-ce qu'une augmentation de prix à 5%, elle couvre la moitié de l'augmentation espérée sur l'année 2022? C'est une bonne question. Je pense que c'est pas si simple que ça. Je pense que on pourra vous y répondre, si vous voulez, Stéphane, sur la base des volumes vendus qui sont eux-mêmes sur l'année en fait en croissance et de toute façon sur lequel on ambitionne en fait d'augmenter les volumes en 2022. Voilà, donc si on parle pas prix, on peut parler maintenant. C'est un peu plus complexe puisque les gammes de produits évoluent. En fait, vous avez le mix dans l'année en fait n'est pas standard. En fait, on n'a pas qu'un produit. On en a. Il y a plusieurs. Peut-être Jean-Marc, tu peux en parler. Il y a des lancements. Mais tu en avais déjà parlé. Mais des lancements de produits pour l'année 2022.
Aujourd'hui, ce qu'on est certain, c'est que encore une fois, je parle dans un premier temps du médical et après on pourra parler de la photonique. Ce qu'on est certain, c'est que on voit des volumes augmenter sur certains pays parce que on se rend compte qu'on a une plus forte part de marché, donc nos produits habituels progressent. Et puis on a des nouveaux produits qui arrivent. Alors dans ces nouveaux produits qui arrivent, il y a des produits que je vais qualifier de substitution, c'est-à-dire des nouvelles générations. Et là, le switch se fait en fonction des enregistrements, de la vitesse de pénétration. Donc ça, c'est le premier point. Et puis à côté de ça, on a des pays, des nouveaux. Et je vous en parlais tout à l'heure, les États-Unis, les produits Cantel médical aux États-Unis, jusqu'à l'année dernière, il y avait 5 vendeurs. Là, aujourd'hui, il y en a 12. Ben, mathématiquement, ça augmente et on voit la puissance de notre organisation et les synergies calculées. Donc, globalement, nos volumes ont augmenté en 2021 par rapport à 2020, globalement. L'objectif, c'est de continuer de les faire croître en 2022, mais ce n'est pas linéaire sur toutes les gammes de produits. Il y a beaucoup d'éléments, l'arrivée de nouveaux produits, les enregistrements qui comptent tout ça. Mais d'une façon générale, on pourra vous répondre, c'est vrai, Pierre, un petit peu plus tard à cette question-là. Mais là, ce n'est pas si simple mathématiquement d'appliquer 5% au budget.
Merci beaucoup.
La prochaine question, c'est de Pierre Dinet de Idmit Caps. À vous la parole.
Oui, bonsoir, monsieur. Vous m'entendez bien?
Oui, très bien, merci.
Bonsoir. Moi, je voulais juste revenir brièvement sur la thématique LIDAR et véhicules autonomes. Je suis tombé sur un article récemment qui disait que Sony développait une puce ultra précise, entre guillemets, basée sur la techno LIDAR SPAD, qui doit permettre à terme aux constructeurs automobiles de créer des systèmes LIDAR à moins de 2000 $. Et donc, bon, comme je ne suis pas aussi expert que vous, je voulais savoir si c'était une techno que vous maîtrisiez, si c'était concurrent de ce que vous développez actuellement. Voilà, juste essayer de mettre cette news que j'ai vue en perspective avec ce que vous faites. Merci.
Oui, enfin, donc les technospads, en fait, pour utiliser les savants de pas réellement. Donc, dans ce cas, j'ai développé donc une nouvelle puce. On utilise en fait cette technologie pour LIDAR aujourd'hui. L'introduction de nouvelles technologies n'a pas pour beaucoup d'intérêt sur le LIDAR.
Marc, je suis désolé, on vous entend très mal.
Voilà.
Vous m'entendez mieux donc maintenant.
Oui, c'est beaucoup mieux, Marc, maintenant.
Oui, c'est mieux. Oui, donc je disais que le SPAD donc en fait donc est pas nouveau en tant que tel, donc même si ça, Sony a introduit un nouveau composant, mais qui n'est pas aujourd'hui donc déployé par les acteurs principaux. Alors je dis pas que c'est sans intérêt, donc mais ça prend beaucoup de temps en fait donc pour introduire en fait donc de nouvelles techno, et avant le SPAD donc il y a sans doute donc d'autres technologies LIDAR donc aussi concurrentes qui sont ce qu'on appelle la technologie cohérente, donc par opposition à la technologie temps de vol qui est actuellement utilisée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est sur les rails aujourd'hui, ce sont les technologies temps de vol à 1550 nanomètres, donc pour les prochaines générations donc de laser donc et de LIDAR en fait, donc et les contrats en fait donc ça a chuté malheureusement, mais les volumes donc vraisemblablement apparaîtront, on espère, en 2022, cette année. On ne sait pas trop quand, et ça dépend beaucoup aussi des conditions économiques. En tout cas, ça voilà, donc les prochaines générations donc en volume ne seront pas sur du SPAD. Donc après, ça le sera peut-être donc sur les générations donc supérieur, mais bon, enfin pour l'instant c'est encore très hypothétique en fait. Donc et les technologies actuelles en termes de coûts en fait donc commencent à être assez proches des objectifs aussi, hein. Donc c'est-à-dire que toute nouvelle technologie devra donc démontrer en fait donc la capacité à produire en volume, et puis capacité à répondre techniquement au cahier des charges, donc ce qui est quand même pas gagné en fait donc compte tenu des contraintes environnementales sévères, et évidemment donc avoir des coûts qui soient aussi bons aujourd'hui que ce qui commence à être développé sur les technologies de laser à fibre.
Ok, très clair, merci.
La prochaine question, c'est de Jérémy Sellé de BNP Paribas. À vous la parole.
Oui, bonsoir. Alors, juste deux petites questions. Je voulais avoir un update sur le calendrier d'intégration de SAB, parce que c'était toujours prévu sur le Q2. Et ma deuxième question, c'était sur les grandes tendances que vous attendez en 2022 par business unit. Alors, est-ce que globalement, il faut s'attendre à peu près aux mêmes dynamiques qu'en 2021, parce que ce sera encore une année qui sera tirée par l'industrie médicale. Merci.
Oui, donc, alors, je ne sais pas, vous m'entendez bien toujours. Donc, sur l'intégration SAB, oui, donc on n'en a pas parlé. Ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. Oui, Q2. C'est ce qui est prévu donc sur le closing. Enfin, juste pour mémoire, donc nous avions fait le signing donc il y a à peu près un an. Et aujourd'hui en fait nous travaillons en fait donc sur la préparation de ce closing, mais nous travaillons également beaucoup sur la préparation de l'intégration des équipes qui sont basées aujourd'hui en Suède. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu beaucoup de contrats commerciaux en lien avec le Rafale, qui valorise encore davantage en fait cette activité. Donc pour nous, ça nous renforcera clairement en fait donc sur le secteur de la défense, donc cette activité SAB, et nous sommes impatients de pouvoir l'intégrer courant Q2 quoi. Alors sur les perspectives 2022, on vous a parlé de backlog, backlog important. Ce qui nous projette quand même, qui nous donne quand même sur ce que peut-être jamais eu un backlog aussi important que ça. Alors maintenant, il y a toujours ce questionnement en fait, donc sur les appros, voilà. Donc enfin, on peut quand même supposer que, bon, à un moment donné, donc les choses vont rentrer un petit peu dans la norme. Donc mon confiance donc sur la base donc du backlog et confiance donc sur nos objectifs donc de croissance donc organique qu'on avait fixé à 10%. Donc on l'a aussi on l'a démontré encore cette année, enfin en 2021. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'en 2022 aujourd'hui on soit pas en ligne donc avec ces objectifs de croissance donc minimum garanti. Sachant que bon, il y a quand même beaucoup de leviers en fait donc qui n'ont pas encore donc été traduits en fait donc dans les chiffres. On en a parlé en fait donc sur la défense spatiale, donc on a moins 7% donc en 2021. Bon, c'est lié donc essentiellement à la décroissance en fait du mégajoule, mais qui a été compensé en fait donc partiellement donc par des nouveaux contrats qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Donc bon, ces contrats qu'on vient de progresser donc à la fois sur la défense donc mais également sur le spatial, donc tout ce qui est en lien avec les constellations de satellites sur lesquelles nous sommes extrêmement présents et sur lesquelles donc nous avons vraiment affirmé un leadership donc en 2021, donc qui va pouvoir effectivement donc j'espère se traduire en chiffres en 2022. Bon, on a parlé de SAB, donc l'activité donc LIDAR, donc que ce soit sur l'auto, donc qui continue pour essayer sur les phases de qualif, donc bon, qui voilà sur les activités donc LIDAR système, donc pour la mesure de vent, donc là aussi un démarrage donc en douceur, mais bon, qui confirme et qui continuera de prendre d'ampleur, donc parce qu'en fait donc nous avons vraiment des avantages donc clés pour réussir sur ces domaines-là. Nous sommes verticalement intégrés, donc ça nous donne un avantage donc essentiel par rapport à la concurrence. Donc et sur le médical, donc l'introduction de nouveaux produits, donc des synergies bon, qui continuent de se mettre en place donc avec mon Elex, donc sur l'ensemble donc des activités médicales. Donc on peut vraiment dire qu'en 2021, donc bon, au-delà des chiffres, donc donc qui sont déjà pas si mal que ça, donc 28% de croissance, donc 62 millions et demi d'euros. Benny Bird a énormément progressé en fait sur son leadership, donc sur les différentes activités en fait donc que nous avons adressées, et également en fait donc sur sa capacité à donc à adresser en fait donc les marchés en fait donc visés donc par en fait donc à cette structuration au niveau du groupe. Donc le renforcement de l'équipe de direction et le renforcement de sa structure, donc tout ça va dans le bon sens, et c'est pour ça que nous affichons effectivement donc un optimisme sans faille, je dirais, donc sur l'activité 2022 et au-delà, évidemment.
Ok, merci. Mais je m'interrogeais en fait sur les activités qui ont contribué à la croissance en 2021, notamment sur cette activité industrielle et scientifique qui a porté la croissance dans le photonique. Enfin, est-ce que globalement, il faut s'attendre à ce même schéma en 2022, que ce soit l'industrie qui compense un niveau de croissance beaucoup plus faible sur les deux autres métiers?
En 2022, les tendances donc, sont que bon, d'autres secteurs d'activité vont sans doute prendre la relève, donc va être plus actifs parce que bon, sont maintenant un petit peu plus matures. Donc bon, enfin voilà, j'ai parlé en fait donc de la défense, du spatial, du lidar, bon, et même donc du médical qui devrait continuer à progresser. Donc pas sûr que donc en relatif en fait donc en pourcentage donc la division industrielle donc scientifique donc soit au niveau de l'an dernier, mais bon, globalement ce qui est sûr c'est que donc ça va progresser en fait donc et ça sera sans doute tiré par d'autres leviers de croissance donc sur 2022.
Ok, merci beaucoup.
Je vous rappelle que vous pouvez vous enregistrer pour vos questions en appuyant les touches étoiles suivies par 1. La prochaine question, c'est de Eric Blain from Finance Connect. À vous la parole.
Oui, bonsoir. Tous mes voeux également. Juste deux petits points. En ce qui concerne la croissance pro forma du médical au Q4, dans une question, on a parlé de 3%. Moi, j'avais cru comprendre que le médical au Q4, c'était une croissance pro forma de 10%. Je me trompe?
Aude, tu peux donner le chiffre exact, s'il te plaît?
La croissance pro forma du médical?
Au T4.
Au T4. Au T4. Alors, celui-là, je ne l'ai pas sous les yeux à l'instant T, là. Je suis désolé.
Pendant...
Je l'ai. La croissance médicale au T4, elle est de 10%.
Ouais, c'est ça. Ça. Ouais.
D'accord, ok. Et juste, le contrat Mégajoule, maintenant, il représente quoi? Et c'est devenu complètement marginal?
Non. Pardon, excusez-moi.
Non, mais allez-y, donnez-moi le montant.
Non, le contrat n'est pas marginal, ça représente plus de 5 millions d'euros encore. Ouais.
Et ça va continuer à décroître, en fait?
Alors, on va arriver à un plateau à un moment. D'un côté, ça sera plus de produits, entre parenthèses, des nouveaux. Par contre, il y a actuellement une négociation importante sur les contrats de maintenance où on n'a pas de chiffre en tête exact pour l'instant, parce que la négociation est non pas âpre, mais elle est actuelle. Mais on pense qu'on restera dans ces eaux-là à chaque fois. On ne descendra pas beaucoup en dessous.
Donc, a priori, là, il n'y a plus de baisse programmée de l'activité?
Non.
Et là, 5 millions, c'était... Bon, je retrouverai le chiffre d'une dernière remarque. Et le petit point aussi, l'intégration de SAB là, au deuxième semestre, c'est ça?
C'est ça, oui.
Fin du premier semestre.
Ça fera combien de chiffre d'affaires en année pleine?
Je ne sais pas si nous avions communiqué sur l'activité Pierre, donc est-ce qu'on avait...
On avait communiqué, en fait, c'est une activité qui représente à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine.
Voilà. Et il n'y a pas de saisonnalité majeure, enfin une petite saisonnalité.
Il y en a. Donc, en gros, si la question est la projection pour l'année 2022, en fait, sur le chiffre d'affaires, en disant que selon la date d'intégration, donc, je pense qu'on n'aura pas 50% du chiffre d'affaires, on n'aura pas 5 millions de chiffre d'affaires stable. Enfin, si c'est possible, on le fera. Mais si parce qu'il y a une période d'intégration, il y a une période d'été également. Je crois qu'on l'avait expliqué, mais l'intégration de SAB, ça correspond en fait à la construction d'une nouvelle usine, en fait, dans laquelle on met tout en place, en fait, on récupère les équipes, les clients, mais effectivement, l'usine, en fait, est en cours de construction aujourd'hui avec la mise en œuvre. Après, une nouvelle usine, c'est aussi des surprises. De bonnes surprises, mais des fois des moins bonnes.
Ça va faire bondir vos capex pour l'année ou
Alors non, ça reste raisonnable, d'autant plus qu'il faut analyser en fait cette opportunité à l'aune du prix que nous achetons en fait l'activité et qui reste très raisonnable. Et ça, je vous laisserai découvrir ça dans l'URD 2023.
Ok, merci.
On n'a pas communiqué dessus.
Non, mais vous communiquerez sûrement.
Oui, bien sûr.
Merci.
La prochaine question, c'est dans la ligne de M. Ferté de Ferté Conseil. À vous la parole.
Oui, bonsoir à tous, tous mes voeux. Je me permettais de vous poser la question suivante. Ardian, apparemment, a cédé Schwind à Adagia Partners. Est-ce que la société est un concurrent pour vous et dans quel domaine précisément, si c'est le cas? Merci.
Alors, je vais répondre. Donc, Schwind n'est pas un concurrent pour nous. Donc, aujourd'hui, le laser est utilisé en ophtalmologie pour différentes applications. Et une des applications importantes, c'est ce qu'on appelle la chirurgie réfractive. Donc, ça va être non pas une chirurgie de confort, mais c'est ce qui va venir réparer, soigner les troubles principalement de la myopie. Et Schwind est un acteur allemand dans ce domaine-là. Et ces activités-là ont été vendues par Ardian à Adagia au cours de l'année. Donc, ce n'est pas un concurrent. Nous partageons avec Schwind des distributeurs communs. C'est une société que nous connaissons bien. Et voilà. Mais ce n'est pas un concurrent.
Très bien. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, nous n'avons pas d'autres questions en ce moment.
Marc, tu...
Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être juste en, voilà, en résumé, donc déjà vous remercie en fait donc pour la confiance donc et l'intérêt que vous portez sur le groupe Lumibird, donc bon, enfin vous réaffirmez en fait donc que nous nous sommes confiants en fait donc sur la tenue de nos objectifs 2023 et que voilà donc l'histoire est en marche et c'est une belle histoire donc qu'est Lumibird, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie donc de votre attention, de votre confiance. Et puis bonne année encore une fois à tous et à toutes et à très bientôt.
Merci à tous, bonsoir. Au revoir.